Session Amitié Contemplation, Père Philippe, 2 juillet 1997, première conférence, Saint-Jodard.
pas le même au niveau de mon devenir aujourd'hui que hier. Il y a une journée de plus. Mais dans mon être profond, je suis le même. En me réveillant ce matin, je me suis pas tâté le pouls pendant 5 minutes. Est-ce que je suis le même qu'hier? Ah, il y a eu une nuit entre deux. Même si je me suis réveillé plusieurs fois la nuit, si je commence à réfléchir entre mon devenir, je continue de devenir. Je vois bien que le temps n'est pas le même. Mais il y a quelque chose en moi qui reste le même. Ma personne. Mais le jour où ma personne est entièrement prise par le devenir, par le conditionnement de toutes les choses, je dirais, je ne suis pas le même qu'hier. Donc, et ça a mis longtemps dans la philosophie grecque avant de discerner le devenir et l'être. Il y a eu toutes les positions. Il y a eu ceux qui ont séparé l'être du devenir. Parménide. Le devenir n'est pas l'être. Et l'être n'est pas le devenir. Et puis ceux qui ont compris que l'être est dans le devenir. Et que je distingue, mais que je ne sépare pas. Je n'ai jamais vu l'être sans le devenir. Je n'ai jamais expérimenté la réalité en dehors du devenir. La seule chose que j'expérimente, c'est le devenir. Mais dans la réalité qui devient, il y a l'être. Donc il n'y a pas une séparation. Puis les philosophes qui ne voient que devenir. Ça, c'est une vieille distinction, peut-être la plus radicale devant laquelle les philosophes grecs se sont heurtés. Et cela demeure tout le temps. On pourrait très bien faire l'histoire de la philosophie et de la philosophie européenne ou de la philosophie tout court en voyant devenir et être. Comment on regarde les relations entre les deux? Bien, il y a quelque chose d'analogue entre le point de vue de la raison raisonnante, le raisonnement. Autre chose de séparer. toute distinction est une séparation. On ne peut plus penser vraiment. On tombe dans le raisonnement. Le raisonnement, j'en ai l'expérience constante. Pour beaucoup de personnes, réfléchir, c'est raisonner. Penser, c'est raisonner. Non. Autre chose. Le point de vue de l'intelligence. Autre chose, le point de vue du raisonnement. Le nous. Le nous. Et le logikos grec. Le raisonnement. On a perdu cette distinction. Depuis Descartes, on parle de l'entendement. Alors à partir de là, au fond, on ramène tout au raisonnement. Plus de contemplation. Il n'y a plus que la méditation. Au plan spirituel, on médite tout le temps. À perte de vue. On analyse tout le temps. Et ça, c'est capital. C'est des distinctions qui sont extrêmement importantes parce que seule l'intelligence saisit l'être et le raisonnement saisit le devenir. C'est pour ça que je dis qu'il y a un parallélisme entre les deux. Mais c'est sûr que dans la dialectique hegelienne, or je crois que la dialectique hegelienne joue un rôle capital dans notre manière de penser aujourd'hui. Tu connais bien le professeur Bourgeois, qui connaît bien Hegel. Et je lui ai demandé un jour pourquoi aimez-vous tant Hegel. Alors il m'a dit simplement, je n'ai rien trouvé de plus fort que Hegel. Mais si je trouvais quelque chose de plus intelligent que Hegel, je le dépasserai, je cherche la vérité. On voit très bien que l'emprise hegelienne est très très forte. Et c'est la dialectique. Et dans la dialectique, le devenir absorbe l'être. Le raisonnement absorbe l'intellectus, l'intelligence. Nous devons redécouvrir ces premières distinctions fondamentales. Autrement, nous nous laissons emporter par la modernité en disant, c'est ce qu'il y a de tout à fait récent, c'est la mode. Je comprends pour les chapeaux, on fait attention à la mode. C'est normal que pour la mode on fasse attention. Quoiqu'aujourd'hui, ne pas suivre la mode, c'est original. Et donc c'est très bien porté. Prenons n'importe quoi et puis appuyons-nous. Voilà, c'est ce qu'il faut. Oui, l'originalité n'est pas le plus important de la philosophie, c'est la vérité. Alors évidemment, si on ne croit plus à cela, si au contraire on a horreur de la vérité, alors très bien, disons-le ouvertement, je ne peux pas supporter la vérité. C'est dommage, c'est ce que je dirais, c'est dommage, parce que un jour vous vous casserez la tête, ou vous la perdrez, parce que vous tomberez dans l'imagination, dans la pure imagination. Dans l'imagination, ce qui est le plus étonnant, c'est la nouveauté, c'est l'originalité. Ah ça oui, mon imagination se délecte de l'originalité, mais pas mon intelligence. L'intelligence cherche la vérité. Mais le raisonnement ne saisit jamais la vérité. Il est dans la dialectique. se fait librement que dans l'amour d'amitié. C'est cela que je voudrais que vous compreniez. Oui, c'est la fine pointe de cette session. L'une, l'autre, c'est la contemplation. Il y a deux absolus. Se heurte toujours, mais il est heureux de se heurter à cela, parce que c'est cela qui permet à l'homme, à la personne humaine, d'être parfaitement personne humaine. Une personne humaine qui n'est pas capable d'aimer spirituellement. Si la philosophie m'empêche d'être conscient de mes actes et d'avoir une luminosité interne, de découvrir ce qu'il y a de plus précieux dans ma volonté, c'est triste. À quoi ça sert ? À raisonner, à faire de la dialectique. Et avoir toujours raison. Oui, on dit toujours avoir raison. Pas être intelligent, mais avoir raison. Donc, on transpose en philosophie ce qu'on voit, hélas, couramment, c'est qu'on cherche le pouvoir. On cherche de dominer. On ne cherche pas à connaître la vérité et à contempler. Et par le fait même, il n'y a plus d'amour. Dans l'ordre de l'amour spirituel, l'amitié est le sommet. Et vous comprenez tout de suite pourquoi. C'est que, je vous disais hier en terminant, c'est dans le choix de l'ami que se noue l'amitié, impliquant la réciprocité du choix. Ce sont deux choix. Je te choisis pour être mon ami. Je te choisis pour être mon ami. Il y a une réciprocité. Vous voyez, ce qu'on voit dans le mariage, le jour où on ne comprend plus l'amitié, on ne comprend plus le mariage. Le jour où on considère que le mariage, c'est conventionnel, ça ne doit plus exister, parce que ça empêche d'être soi-même. C'est qu'on n'a jamais compris ce que c'était que l'amour d'amitié. Et c'est vrai que si on ne comprend pas ce que c'est que l'amour d'amitié, on ne peut pas comprendre ce qu'est le mariage. Parce que on confond la réciprocité du choix amical avec une sorte d'enchaînement. On se lie mutuellement par une chaîne. Mais ça ne vient pas de l'intérieur. C'est une loi qu'on se donne mutuellement. Mais ça devient une loi. On reste dans la justice. Et donc, à la place de se libérer, d'être plus soi-même, on n'est pas du tout plus soi-même. On arrête l'élan de sa vie. Comme on entend de temps en temps des jeunes gens qui vont se marier. La veille de leur mariage, liberté. J'ai entendu ça plus d'une fois. Derrière-vous de la liberté. Oh, quand ça se dit en blaguant, on voit très bien ce que ça veut dire. À partir de mariage, j'aurai un fardeau. Je ne pourrai plus être absolument libre. Absolu. Pourquoi cherchez-vous la liberté? Pour être libre. Qu'est-ce que ça va vous donner? L'autonomie, oui. Mais vous ne saurez plus rien quoi faire. Alors on s'ennuie. Le monde d'aujourd'hui s'ennuie. Il ne sait plus où il va. Tandis que si vous comprenez que vous êtes un sens à ma vie, ma finalité, ce qui donne un sens à ma vie. Et quand je découvre l'ami, je découvre quelqu'un qui me permet d'être parfaitement moi-même au niveau humain, parce que je peux tout lui dire et je sais que tout ce que je dis est reçu dans l'amour. Dans ce choix premier qui demeure tout le temps. Parce qu'il a atteint quelque chose d'absolu. Là, vous voyez que si, de fait, la liberté, et quand vous demandez à quelqu'un qui est pour la liberté, il dit, mais qu'est-ce que c'est que la liberté? Faire aimer, c'est être relatif à quelqu'un. Il faut dire que l'amour implique comme conséquence qu'on soit relatif à quelqu'un. Mais l'amour, c'est le don de nous-mêmes. Donc, c'est s'agrandir. C'est d'aller le plus loin possible dans notre vitalité, dans nos réserves. On donne tout. On va jusqu'au bout. Relatif à l'amour, dans l'amour, est-ce que c'est une limitation? Non. C'est être relatif à quelqu'un qui nous aime et qui désire qu'on soit parfaitement soi-même. C'est donc redoubler en nous ce désir d'être parfaitement soi-même. L'autonomie. C'est objectivité dans la subjectivité qui va le plus loin possible. Quand je suis seul à me regarder, la plupart du temps, je me vois d'une façon subjective. C'est-à-dire, pas dans le réalisme. Je vois avant tout ce qui me plaît. Je vois avant tout ce qui m'intéresse. Et ce qui me plaît, et ce qui m'intéresse, passe avant tout le reste. Quand je suis seul, je risque d'être égoïste. Et progressivement, je me restreins dans mon horizon. Il n'y a plus que moi. Et on est le seul à trouver que c'est pas si mal. Tous les autres trouvent c'est terrible. Ils ne voient plus que lui. Il n'y a plus que lui qui l'intéresse. Il n'y a plus que lui et tout ce qui vient de lui, qui pour lui a un sens, le reste n'a plus de sens. On se rétrécit à être petit bourgeois, s'enfermant sur soi. Dans l'amour d'amitié, on aime l'ami. Et l'ami est saisi comme l'autre. Je ne saisis l'autre parfaitement que dans l'amour d'amitié. C'est la personne humaine. Ma canne, c'est pas autre. Mon chien, ce n'est pas l'autre. Tandis que la personne humaine, celle qui était à côté de moi, même Lévinas, il était pour moi l'autre. Puisqu'il n'était pas moi, il était nécessairement l'autre. Si je le regarde vivement et que je me mets à la je me mets de l'autre côté, je vois l'autre. Il est vu autrement. Si je l'aime, j'ai un regard intérieur. Et c'est ça qui est si extraordinaire dans l'amour d'amitié. C'est que je connais l'autre, véritablement. Et grâce à l'ami, je respecte tous les autres. Je les connais dans leur originalité. Mais les connaître dans leur originalité, ce n'est pas toujours les connaître vraiment. j'ai un tout petit peu l'expérience de l'amour d'amitié. Je dis oui, c'est vrai. L'autre, c'est l'ami. Et ça, c'est merveilleux. Voyez comment l'amour est au-delà de tout raisonnement. La raison raisonnante. Quelqu'un qui demeure dans l'amour, quelqu'un qui demeure dans la raison raisonnante et qui voit deux amoureux, qu'est-ce qu'il dit ? Ils sont fous. Ils sont fous. Depuis qu'elle est fiancée, elle perd la tête. Avant, elle était si raisonnable. Hein ? Est-ce que c'est la qualité suprême de l'homme d'être raisonnable ? De raisonner tout le temps et de tout critiquer ? Non. L'amour est au-delà de la raison. Mais l'amour n'est pas au-delà de l'intelligence. L'intelligence saisit l'être. Et pour moi, ce qu'il y a de plus intéressant dans l'être, c'est celui qui m'aime. C'est l'autre. Mais l'autre entend qu'il m'aime. C'est la personne de l'autre. Et je vois très bien qu'en même temps, je dis que l'amour, l'intelligence peut connaître l'amour. Et l'intelligence n'est pas hostile à l'amour. L'intelligence n'est pas en opposition à l'amour. Un amour d'amitié ne peut progresser, grandir, aussi je respecte l'ami. Il est autre. Je ne veux pas le manger pour qu'il soit moi. L'amour captatif, hein, c'est l'amour où on considère l'autre comme une très bonne nourriture. Ah, il est excellent quand il est là. On s'amuse beaucoup. C'est du champagne, c'est merveilleux, ça mousse. Est-ce que c'est ça, aimer ? Non. C'est être charmé de certaines qualités de l'autre, mais c'est pas l'autre comme personne. Aimer l'autre, c'est l'aimer pour lui-même, et pas pour le charme qu'il me donne. C'est aimer l'autre pour lui-même, c'est me dépasser. Tandis que j'aime, quand j'aime l'autre, comme du bon champagne, c'est pour moi. C'est évident. C'est moi qui suis charmé de ça. Les Grecs ont des mots différents pour l'amour et ce que représente ce petit charme merveilleux de certaines personnes. Est-ce que c'est vrai ? C'est toujours nouveau. Et donc, ça passe tout le temps. L'amour et l'intelligence progressent ensemble. Et pour que l'amour d'amitié puisse progresser, il faut que mon intelligence connaissent l'autre par l'amour, et en le connaissant, je l'aime toujours plus. Il y a non pas une opposition dialectique, mais il y a au contraire comme une coopération merveilleuse. suis intelligent quand je suis en présence de personnes que j'aime. C'est curieux. Mon intelligence se délie. Mon intelligence va plus loin. Elle pénètre plus à fond. Évidemment, on dira « Oh, mais c'est subjectif !» Mais non, c'est pas subjectif, c'est l'amour. Ne condamnez pas la subjectivité quand elle est l'amour de l'autre. Forcément, c'est subjectif, ça vient de moi. Mais c'est en même temps on est obligé de parler au plan spirituel, de l'ouverture du cœur. Les amis n'en parlent jamais. Parce que l'amour d'amitié ouvre le cœur de l'ami. C'est l'amour qui ouvre le cœur de l'ami. L'ouverture du cœur, dans un examen psychologique, pourtant, la contemplation me met dans une solitude. l'adoration me met dans une solitude. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ah, Vesoli, malheur à celui qui n'accepte pas d'aimer. Dès que vous aimez, vous n'êtes plus seul. Dire que vous êtes toujours avec l'autre, non, c'est pas la peine. Si vous l'aimez, il habite en vous. Si vous l'aimez, vous habitez en lui. Ce fait soli, malheur à celui qui est seul, exprime bien que l'homme est
Et si on est attentif à la culture et les civilisations.
actuelle qui monte. Aussi, est-ce qu'il sera encore capable d'aimer l'homme et la femme, l'homme et l'homme? Est-ce qu'ils vont être encore capables d'aimer, de s'aimer? On n'a plus le temps de s'aimer. Parce que c'est l'efficacité qui domine et qui prend tout. Je comprends, il faut gagner sa vie. Et ça devient tellement difficile quelquefois qu'on n'a plus le temps que de faire ça. Et alors, on ne voit plus comment l'homme s'épanouit dans l'amour. Il se dépasse. L'homme n'est heureux qu'en se dépassant. La femme n'est heureuse qu'en se dépassant. La mère est heureuse en se donnant à ses enfants. C'est ce dépassement qui permet à l'homme de s'épanouir. Le dépassement le plus beau, le plus grand, j'allais dire le plus sûr, c'est l'amour d'amitié qui est le vrai dépassement de l'homme. Il a un regard de sagesse. C'est-à-dire dans la lumière du Dieu créateur, montre que l'homme et la femme ont été créés pour s'aimer. Et l'homme est créé pour s'aimer, pour aimer l'autre. Et pour aimer l'autre, il faut qu'il s'aime. Terrible de voir que toute la culture qui monte risque de faire que le véritable amour d'amitié risque de ne plus être possible. Alors l'homme, à partir de là, connaîtra Mais rester seul, ou la femme doit rester seule, ou il n'y a plus d'amour, d'amitié. Alors l'homme deviendra celui qui sera triste. Malheur à celui qui est seul. Et je crois que si on regarde au plan philosophique l'amour d'amitié, on est obligé de reconnaître que l'homme est fait pour cela. Sa première finalité et la finalité la plus fondamentale, c'est d'aimer l'autre, de le découvrir, d'être proche de lui et de pouvoir être pour un autre. Sa découverte de l'autre. Sa finalité, c'est la plus grande joie qu'on peut avoir, de permettre à un autre être humain d'avoir son développement, son épanouissement, sa croissance. Il faut aller jusque-là si on veut découvrir le mystère de l'amour d'amitié. Ce n'est pas chercher l'originalité pour l'originalité, c'est chercher la profondeur abyssale de l'esprit. C'est chercher ce qu'il y a de plus profond, ce qui va le plus loin dans l'esprit et dans le cœur. Aimer.